Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, des contes, des histoires, comme toujours sur CFM, comme depuis longtemps. Et aujourd'hui, en cette nouvelle année, 2024, situons-nous un peu, des histoires de ministres, parce que vous avez vu qu'il y a des nouveaux ministres, des nouveaux premiers, des nouveaux seconds, des nouveaux troisièmes. Et alors je me suis dit, je vais faire des histoires de ministres, mais où les trouver, c'était pas évident. Et finalement, j'ai trouvé des histoires de bêtes et de ministres. Les deux vont ensemble, et c'est vrai que... pourquoi ? Parce que ce sont des fables. Et dans les fables, on voit souvent le roi lion et toute sa cour. Et aujourd'hui, ne voit-on pas la même chose se produire dans les hautes sphères de nos gouvernants qui s'y croient tous ? Rendez-vous compte. Alors, histoire de ministres et de bêtes tirées des fables intempestives de Alain Etchegoyen. J'avais déjà raconté quelques histoires à cette antenne de cet homme qui a disparu, hélas, et que je connais très peu, à part ce livre, Fables intempestives, dans lequel j'ai pioché des petites pépites. Voilà. Donc, sinon, quoi de neuf ? Ben, ma foi, la nouvelle année, la neige, la neige. Les oiseaux aussi. Les oiseaux sont très actifs en ce moment, ils chantent bien. Et les ministres. Voilà, donc des histoires d'oiseaux, d'animaux et de ministres. Mais avant, oui, parce que je ne peux pas m'empêcher, le ministre fait son discours, moi aussi, je fais le mien. Ça s'appelle « Fumée d'écran ». Chacun connaît le puissant pouvoir addictif du tabac, que l'on en fume quelque temps, très vite, il nous manque. Mais ce manque s'apaisera merveilleusement à la première bouffée. Et aussi, très provisoirement, certes, tous nos autres manques et malaises, conscients ou inconscients, s'apaiseront aussi. Le merveilleux ami que le tabac, une clope et du feu. Voilà l'apaisement de toutes les tensions grimpées sur le dos du manque de nicotine. Et notre vie devient rythmée par les prises régulières. Qui n'a un jour attendu l'heure, enfin, de la pause clope ? Tout comme le tabac, ce qu'on appelle, à tort sans doute, le smartphone, tient dans la poche. Et comme lui, il est puissamment addictif. Probablement bien plus que le tabac. En quelques clics, il nous offre des émotions à foison. Émerveillement, indignation, compassion, désir, colère, rire. Et quelle tentation ! Donc, à chaque vague à l'âme, à chaque petit ennui, voire à chaque envie de fuir, il est là, qui nous éclaire, nous apaise, nous donne ce qu'on lui demande. Le résultat est visible, sous nos yeux, autour de nous, regardez que font les gens. Avec près de 5 heures de consommation quotidienne, la population de la planète est devenue totalement addicte. Addict, c'est-à-dire accro. Observez autour de vous, chez vous. Nous sortons l'écran à chaque question, à chaque micro à nuit, à chaque menace de contact avec le monde réel au fond. Nous désertons ainsi le monde vrai pour satisfaire notre besoin de ce qui est devenu la plus puissante drogue au monde, l'écran. Bon, si on rajoute à ce constat un peu effrayant, c'est vrai, le fait que ce qui brille sur cet écran est filtré, profilé, fabriqué par et pour les pouvoirs économiques et politiques. On comprend que l'asservissement semble total. À ce titre, la nomination d'un Premier ministre d'à peine 35 ans est un signe fort. Il a grandi dans le virtuel. Pour lui et tout ce qui l'entoure, le réel n'est plus ce qu'il est, mais ce que l'on en dit ou ce que l'on montre sur les écrans. Ainsi, les meilleurs communicants sont au pouvoir. Il y a sans doute une photo sur le perron de Matignon. Clic. Les premiers Indiens et d'autres peuples, premiers comme on dit maintenant, exprimaient parfois la crainte d'être photographiés. À chaque image, un peu de leur âme, disait-il, était volé. Aujourd'hui, on se demande si les images n'ont pas bel et bien volé nos âmes. Et ainsi, pour la quasi-totalité des humains de la planète. Alors, peut-on en sortir ? Ben, tant qu'il y aura du réseau, je pense qu'on restera majoritairement asservi et dépendant. Mais tous les drogués ont un jour envie d'en sortir, ont un jour une prise de conscience. Et je crois que notre activité principale risque de devenir bientôt essentiellement l'organisation de stages de sevrage. Alors, que dirons-nous à ces gens qui veulent se sevrer ? On leur dira, regardez la réalité. Elle mérite d'être connue, découverte, appréciée. Connectés, nous le sommes déjà. Tout est lié, tous les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, l'air, l'eau, le feu, la terre, le cosmos, en un tout indissociable et magnifique. Notre corps même est le plus délirant jeu vidéo imaginé. On peut sauter, voir, entendre, nager sous l'eau, courir, manger, caresser, aimer, le tout le plus hyper réel que tu puisses imaginer. Quand tu te coupes, c'est du vrai sang qui coule rouge et chaud. Oh, c'est géant. Quant à la terre, peut-on imaginer un plus beau jardin pour nous ébattre ? Jamais pareil, toujours changeant. Rayons de soleil, les oiseaux chantent, une averse, un arc-en-ciel. Ouais, je crois qu'on se réveillera un jour, comme au sortir d'un mauvais rêve. Et on dira, mais qu'avons-nous fait toutes ces années ? Alors, résolution 2024. Je me sèvre et je vais voir dehors si j'y suis pas, ou bien les autres. Chiche. Allez. Il est fini mon discours.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
Ils ont la pêche, ces jeunes, et puis vous ne trouvez pas qu'ils ont raison. Au fond, tout ce qu'il nous faut, c'est de l'amour. Hein. Moi, je crois qu'ils iront loin, ces petits. Ce groupe-là, hein, c'est des Anglais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. En écho de ce que j'ai dit tout à l'heure sur notre addiction mondiale, eh bien, une histoire d'animaux. Avant de commencer les histoires de ministres. Elles sont mélangées, vous verrez. Et une histoire des années 90, donc avant Internet. Et pourtant, une histoire que je trouve particulièrement prophétique. Elle s'intitule « La conférence des oiseaux ». Ce soir-là, la chouette avait encore rassemblé tout son monde. Elle donna la parole au troglodyte. Vous connaissez le troglodyte mignon, qui se remettait mal d'un amour déçu. « Mes amis, dit-il, les hommes ne nous regardent plus. Que pouvons-nous faire pour regagner leur intérêt, sinon leur affection ?» Toujours dans les jardins, nous nous amusions, mes amis les pinsons, les martinets, les rouges-gorges, à lancer notre chant. Et les étourneaux criaillaient à l'envi. Leur conversation s'arrêtait pour nous identifier. Nous gobions nos insectes au-dessus de leur tête et ils s'essayaient à nous reconnaître. Nous ne sommes plus aujourd'hui qu'une espèce volante. Je les entends quelquefois. « Ah tiens, les oiseaux font du bruit aujourd'hui !» Ou la tête en l'air, qu'ils sont nombreux, les oiseaux, dans le ciel. Les hommes ne nous connaissent plus, ne nous reconnaissent plus. Ils sont devenus indifférents à nos plumages, à nos ramages et à nos voyages. Mon nid, pourtant si singulier, n'est plus qu'un nid d'oiseaux comme n'importe quel autre. La chouette, pour alimenter le débat, fit deux remarques qui aggravèrent la réflexion commune. Nous leur importons quand nous leur dérobons quelque chose, comme les merles qui s'attaquent aux cerisiers, alors nous sommes combattus et maudits. Ou bien, ils s'occupent de nous si nous appartenons à ce qu'ils appellent une espèce en voie de disparition, alors nous sommes choyés et préservés. Nous comptons pour les propriétaires et pour les écologistes. Peut-être nous faut-il réfléchir en ce sens. Mais les autres volatiles n'avaient aucune envie de disparaître. L'ortolan était nostalgique. Je me souviens encore. Lorsque j'apparaissais tout en haut d'un fruitier et qu'on reconnaissait mon chant, les hommes, affriandés, soupiraient en rêvant de me voir dans leur assiette. Leur fascination, toute meurtrière qu'elle était, satisfaisait à ma vanité. Je comptais pour eux. La chouette l'interrompit. L'heure n'est plus à la nostalgie. Nous pourrions tous tenir des discours de ce type. Le problème à résoudre est simple à formuler. Que pouvons-nous faire avec ce que sont devenus les hommes ? Un étourneau reprit. Nous avons envahi leur piste d'aéroport pour terroriser leurs engins volants. Belle réponse, fit la chouette. S'il s'agit de sacrifier une nuée d'entre nous pour périr carbonisés dans leur réacteur fou, une mouette suggéra d'attaquer des hommes ou des femmes isolées. Elle garantissait que les oiseaux feraient alors la une de toute la presse humaine. Je ne pense pas, rétorqua la chouette, que la solution consiste à nous faire craindre et détester. Et puis, il ne s'agit pas de faire parler de nous, il s'agit de retrouver notre place, d'être regardés, entendus, aimés pour ce que nous sommes. Je suis opposé à ces méthodes de terroristes. Nous ne sommes pas une minorité, nous peuplons les airs, les jardins, les arbres. Le troglodyte, amoureux d'une hirondelle, fit une autre suggestion. Nous devrions commettre des actes exceptionnels, créer des événements. Je pourrais par exemple tenter un hybride de troglodyte et d'hirondelle. Les martinets surenchérirent. Nous pourrions en masse lâcher nos excréments sur un petit endroit. Par exemple sur la voiture de leur président pendant que les hommes la filment. Vous semblez ne rien comprendre, reprit la chouette courroucée. Nous ne nous ferons ni aimer ni regarder en multipliant nos nuisances. Voyez les ramiers des villes, chacun s'en protège et l'homme ne songe qu'à s'en débarrasser. La buse se sentait peu concernée par le débat. Son envergure et la beauté de son vol solitaire attiraient toujours les yeux humains. Elle fit cependant une réflexion qui attira l'attention commune. Il nous reste les enfants, dit-elle. Nous pourrions aller dans les écoles, virevolter au-dessus des récréations. Les enfants poseront des questions et leurs maîtres tâcheront d'y répondre. Il faut prendre l'homme petit quand il n'est pas encore un homme de ce temps. Une rapide discussion suffit pour convaincre toute la volière. La chouette créa des équipes missionnaires. Chaque équipe était assortie d'individus variés. La première équipe partit pour une école du Havre. Elle se posa sur le toboggan au centre de la cour. Les enfants, bruyants, sortirent de leur classe et furent tout étonnés de les approcher sans les voir s'enfuir à toute volée. Chaque membre de l'équipe déploya son chant et ses ailes et fit une démonstration dans les airs avant de revenir sur le toboggan. Le maître qui surveillait la cour observait le manège. Les enfants, excités, le tiraient par la manche pour lui demander des explications et des noms. Le maître ignorait tout. Il parlait d'oiseaux sans doute échappés de la réserve ornithologique du marais Vernier. Il leur expliqua le sens du mot ornithologique, sans oublier le H. Ainsi, les enfants reçurent-ils une leçon d'orthographe, sans oublier les deux H. Et ils n'apprirent rien sur les beautés de l'air. L'équipe des oiseaux revint déçue. L'échec était consommé. Oui, ils avaient bien perçu l'intérêt des enfants, mais il n'existait plus personne pour les éclairer. Sauf peut-être le garde-chasse du marais Vernier qui organisait les visites de la réserve. La chouette pessimiste conclut ainsi le débat. Les hommes sont perdus. Voyez ? Ce que nous sommes, dès la fin de la couvée, nous apprenons à nos petits l'observation du monde. Nous leur disons le vermisseau et la mouche. Les hommes montrent à leurs petits des écrans. Quelquefois, nous apparaissons. Ils ferment leurs fenêtres. les hommes ne nous regardent plus, car ils regardent un meuble qu'ils nomment télévision. J'entendais un petit garçon qui, sortant du dîner, demandait à ses parents « Est-ce que je peux regarder la télévision ?»« Oui, lui a-t-on répondu comme pour avoir la paix. » Et l'enfant s'est assis devant le meuble. « Vivons, mes amis, volons et traversons les airs hors de leur réserve touristique. Les hommes ont oublié l'observation des choses et des êtres. » Leurs désirs sont désirs de castrat et n'en ont plus que pour le virtuel. Ça swing, c'est normal puisque ça vient de... C'est la bande originale d'un film qui s'appelle Swing de Tony Gatliff. On retrouvera la chouette et toute sa compagnie d'oiseaux et toutes leurs sages remarques tout à l'heure. Mais maintenant, je l'ai promis, entrons dans l'arène. Je veux dire dans l'arène politique, hein, avec des ministres, des vrais. Avec cette histoire toujours d'Alain Etchegoyen qui s'intitule La révolte des nègres. Et dans ce cas précis, les nègres, pour ne pas semer de confusion, sont ceux qui font les discours. Hein. Et les nègres sont ceux qui font en cachette, personne ne le sait, ils sont toujours dans l'ombre, ils font les discours des ministres. Parce que les ministres sont trop occupés pour écrire eux-mêmes leurs discours, bien sûr. Souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas spécialement d'idées. Et c'est bien pratique d'avoir un nègre. Mais parfois, ça tourne mal, comme dans cette histoire qui s'intitule « La révolte des nègres ». Les nègres, un jour, décidèrent de se révolter. Ils en avaient assez de ces ministres dont ils écrivaient les discours, les articles et les déclarations. Ils étaient là de leur mépris. Depuis quelque temps déjà, ils se réunissaient la nuit dans un repère secret pour fomenter quelques forfaits. Ce qui les fit passer à l'acte fut un geste vain et maladroit du ministre de la Condition féminine. Son discours avait été écrit, négocié, réécrit, poli, arrondi, enfin travaillé durant des heures. Au moment de le prononcer, il sortit le papier de sa poche et le déchira ostensiblement pour se donner l'air d'improviser. C'était la goutte d'eau. la nuit même, les nègres décidèrent de passer à l'action. Le principe était simple. Chaque ministre souhaitait dire une formule qui fut reprise par la presse nationale. Les nègres préparèrent la même pour chaque ministre le même jour. Ils avaient choisi un mot, roboratif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, roboratif ? L'inculture des journalistes allait certainement les jeter dans le dictionnaire pour mettre en caractère gras le mot singulier. L'effet fut remarquable. Très tôt le matin, à Nantes, le ministre de la Mer ouvrit le bal en annonçant le roboratif aux pêcheurs interdits. Puis, à Saint-Étienne, le ministre des Armées fit l'éloge des vertus militaires roboratives pour toute la nation. À la Voulte, le ministre de l'Agriculture vanta l'Europe roborative. À Strasbourg, l'emploi roboratif allait se substituer au chômage anémiant. À Bercy, le Francfort était roboratif pour l'économie. À Bordeaux, le Premier ministre vanta l'air roboratif de la province pour le Parisien qu'il était devenu. Tandis qu'à Tulle, le président de la République refaisait l'éloge des pommes roboratives pour la santé. Tout au long de la journée, les journalistes s'étonnèrent d'une telle maîtrise de la communication gouvernementale. Ils se tournèrent vers le publicitaire bronzé qui assurait la cohésion de cette communication. Avant de répondre, celui-ci s'enquit du succès de la formule. Il était acquis. Il assuma donc la paternité du mot. Les nègres avaient échoué. La répétition, loin d'entraîner le ridicule, avait confirmé la résolution et l'unité du gouvernement. Il n'y eut qu'un seul dérapage qui lui fit rire toute la presse. À Marseille, le ministre de la Culture commit un lapsus et parla de sa politique rébarbative. Retrouvons les animaux avec cette histoire qui s'intitule « Les promesses du lion ». Oui, parce que le lion, bien sûr, est devenu démocrate. Et il avait perdu de sa superbe, il avait dû affronter sa première vraie campagne électorale. L'opposition s'était organisée, bien sûr. Il avait dû aller au-delà de l'argument ancestral. « Je me présente ». Et je gagnerai parce que je me nomme Lion. Il avait dû s'engager dans des voies inhabituelles, celles des promesses. Ainsi avait-il assuré que sous son mandat, on ne verrait plus les fauves terroriser les gazelles et les antilopes en les coursant pour les dévorer. Quand il fut réélu comme président de la contrée, il découvrit que l'application de cette mesure rendait exsangues tous ses compagnons de race. Des conseillers firent aussi valoir que les troupeaux d'antilopes et de gazelles allaient prospérer au-delà du raisonnable. Pire, ces élégants animaux n'avaient maintenu leur vertu que grâce à l'impitoyable sélection qu'opéraient les fauves en éliminant les moins rapides et les plus tarés. Une telle mesure risquait donc de modifier tous les grands équilibres de la savane. De plus, le corps électoral risquait d'être dangereusement modifié lors de la prochaine échéance. Le lion, dans sa nouvelle sagesse d'élu, qui n'était plus celle du candidat, expliqua que la mesure promise ne pouvait être prise de façon brutale et autoritaire. Une délégation d'antilopes et de gazelles protesta vivement. Le lion trahissait toutes ses promesses alors même qu'elle l'avait élu en étant persuadé qu'il était le mieux placé pour imposer de telles mesures. Le lion leur répondit par ce discours. « Mes amis, après ces élections, j'ai découvert une réalité que j'ignorais. Je pense qu'il faut procéder avec prudence en ces matières. Je ne change pas de politique, pas du tout, mes objectifs restent les mêmes. Je crois qu'il faut commencer par faire appel à la responsabilité de tous. Soyons prudents en toutes choses. » Les grands fauves sourirent avec délectation. Les antilopes et les gazelles comprirent trop bien, mais un peu tard, ce que signifiait pour elles le mot « prudence ». Inculpé à déjeuner. C'était, au départ, un déjeuner très chic. Le patron d'un grand hebdomadaire invitait chaque mois ses amis industriels et publicitaires pour dialoguer avec un homme politique de bonne dimension. Le club se réunissait. Deux ou trois intellectuels s'égayaient dans ce milieu d'affaires. L'ambiance était agréable, quoique chaque politicien mesurât l'enjeu d'un débat avec de tels décideurs. Mais le temps des juges étant venu, l'assemblée devint bigarrée. À chaque déjeuner, un nouveau membre du club était mis en examen. Par jeu, par dérision et par cynisme, le patron du journal proposa que chaque dirigeant mis en examen vienne désormais habillé d'un costume vert. Au bout d'une année, aucun non-lieu n'ayant été prononcé, tous les membres du club étaient en vert, sauf les intellectuels et les publicitaires. Le Premier ministre, invité après sa prise de fonction, s'étonna de cette différence vestimentaire. Pourquoi les intellectuels? Pourquoi les publicitaires? Étaient-ils plus honnêtes ou étaient-ils protégés par la justice de notre pays? Inquiété dans une sombre affaire immobilière, il plaisanta en s'interrogeant sur sa reconversion. Valait-il mieux devenir intellectuel ou publicitaire? Sollicités par la question, les intellectuels dirent qu'ils n'étaient pas exposés car ils avaient peu de décisions à vendre, mais seulement des livres. Le Premier ministre pouvait donc devenir intellectuel à condition qu'il se contente du pouvoir de l'écriture. Autant devenir pauvre, pensa-t-il en son fort intérieur. Les publicitaires conseillèrent au Premier ministre de venir grossir leur rang si les choses tournaient mal pour lui, ce qu'argumenta le plus cynique d'entre eux. Autant se le dire entre nous, en voix off. dans notre activité, avec les achats d'espaces, les paradis fiscaux, des top modèles et le financement des campagnes politiques, les inculpations se ramassent à la pelle. Mais encore faudrait-il que la presse en parle. L'intérêt d'être publicitaire est là. Nous achetons des espaces publicitaires aux médias qui décident spontanément de ne pas faire de publicité autour de nos petites affaires. Question de prudence. Et vous savez, la prudence est aussi une vertu. Le Premier ministre restait dubitatif. Il ne comprenait pas bien. Les publicitaires étaient-ils épargnés par les procédures ou taisait-on ces procédures ? Le même publicitaire sourit de cette naïveté qu'il croyait feinte. Vous vous moquez, je pense, ce n'est pas une alternative. Les deux vont ensemble, vous le savez bien. Une procédure ne peut être entravée, je veux dire enterrée, que si les médias n'en parlent pas. S'ils l'évoquent, il est déjà trop tard. Il faut donc anticiper. L'homme politique allait s'indigner de cette inégalité dont il était victime, mais l'homme anticipa. Réfléchissez un peu. Si le Premier ministre traîne une casserole, si petite soit-elle pour les médias, l'audimat et les ventes explosent sans contrepartie. Si moi, chef d'agence, j'ai une très grosse casserole, ça n'intéresse personne et en plus, ça peut faire perdre de gros budgets aux médias qui voudraient y intéresser du monde. Ce n'est pas de la censure, c'est de l'autocensure. Nous avons un beau métier, jamais de menaces. Tout le monde comprend tout de suite, c'est la loi du marché. Le Premier ministre approuva ce discours en songeant à sa reconversion. Je ne sais pas encore que faire. Anticiper, répéta le publicitaire. Anticiper. Retrouvons les animaux avec l'aigle humanitaire. Tiens. Un magnifique aigle royal dominait les cimes et régnait un maître dans la plaine. Aucun animal n'avait encore pu contester son pouvoir. Certes, il ne pouvait s'attaquer aux lions et aux panthères, mais ceux-ci enviaient son vol invulnérable. Ils étaient parfois concurrents sur une même proie, mais toujours l'aigle voyait plus loin et subtilisait au félin les animaux de taille moyenne. Comme le lion était devenu démocrate, j'en ai parlé tout à l'heure, l'aigle voulut lui prendre son trône. Pour obtenir la faveur d'animaux indécis, proies des rapaces et des félins, l'aigle imagina d'en protéger certains et de s'en faire clientèle. Le rapace fit de l'humanitaire. Pour mieux parvenir à ses fins, il voulut que ses actions fussent connues. Pour commencer, il sauva des griffes d'un puma, une jeune antilope qui venait de naître. Il avait ainsi gagné la voix de ses parents et de leurs proches. Profitant de son vol et des grands espaces qu'il pouvait parcourir, il sauva d'autres jeunes animaux qu'il promenait en l'air pour que toute la savane contemplât la beauté de son geste. De temps en temps, il revenait à terre pour déposer les malheureux petits et croisait un moment d'autres animaux discrets et silencieux qui allaient s'en occuper pour les nourrir et les faire survivre. Le lion semblait en mauvaise posture et la panthère, qui avait songé un moment lui faire concurrence, rallia la famille féline pour combattre le rapace. tous regardaient avec rage leur proie leur échapper, et l'aigle, plastronné dans l'azur, la victime sauvée entre les cerfs pour répandre la nouvelle de sa bonne action. La plupart des animaux se sentirent protégés par le zorro des airs qui surgissait quand ils se croyaient à la dernière extrémité. Le jour de l'élection venue, l'aigle l'emporta sur le lion qui dut laisser son trône. Personne ne s'était demandé comment désormais l'aigle se nourrissait. Car c'est bien sûr en cachette qu'il égorgeait et lacérait quelques proies. Mais ce n'était pas un programme. D'ailleurs, il n'avait pas de programme. Une fois élu, il abandonna ses grandes démonstrations pour se consacrer à sa tâche essentielle, préparer sa réélection lors de la prochaine échéance. Le monstre attend son heure. Le premier ministre était très ennuyé. Il était affaibli par ses affaires personnelles et contrarié par toutes ses promesses de campagne qu'il savait bien ne pouvoir jamais tenir. Il consulta donc un homme de communication. Ce type d'homme est très utile aux politiques. Il leur permet toujours, un peu plus tard, d'expliquer leur impopularité par des erreurs de communication. Ils auraient alors suivi de mauvais conseils. Change alors l'homme de communication. Ce Machiavel de pacotille lui rappela un principe simple. Pour régner, il faut diviser. Face à une situation difficile, le Premier ministre entreprit alors de dresser les Français les uns contre les autres. Chacun devait pouvoir se trouver un bouc émissaire qui serait l'explication totale de ses propres difficultés. Il mit en œuvre pour ce faire tous les relais efficaces dont il disposait dans la presse. Et il procéda méthodiquement avec ordre et rigueur. À l'occasion d'attentats terroristes, il montra du doigt les étrangers basanés qui cachaient leurs forfaits dans de sombres banlieues. Ainsi, les Français de pure souche seraient-ils fiers d'être Français ? Puis il dénonça les nantis, tous ces fonctionnaires qui avaient des privilèges en matière de sécurité, de retraite, de temps de travail. Ainsi, les véritables travailleurs du privé comprendraient-ils l'origine et l'injustice de leurs difficultés ? Ensuite, il dénigra les cheminots qui engloutissaient l'argent public en provoquant des augmentations d'impôts. Ainsi, les contribuables pourraient-ils s'expliquer les nouvelles ponctions fiscales ? Un peu plus tard, il vitupéra les syndicats qui ne pensaient qu'à leurs propres intérêts au mépris de l'intérêt national. Tous les non-syndiqués comprendraient alors où se trouve la source de leurs maux dès la prochaine grève. Il n'oublia pas la presse et les médias qui poussaient à la morosité. Il mit l'accent sur les avantages fiscaux des journalistes, leur salaire mirobolant. Il critiqua cette liberté qui devenait licence. Ainsi, les Français ne croiraient-ils plus ces violentes critiques qu'on lui assénait de toutes parts ? Et comme les grèves des transports gênaient la vie quotidienne des Français, il demanda à son parti de mettre sur pied des comités d'usagers qui manifestèrent bruyamment. Au terme de toutes ces manœuvres, il avait réussi à monter les uns contre les autres. Tapis dans son antre, un homme terrible attendait son heure. Il savait compter les points. Il préférait se taire quelque temps. Mais demain, il se lèverait pour ramasser la mise. Son programme était dit sans qu'il eût ouvert la bouche. sus aux immigrés, sus aux fonctionnaires, sus aux syndicats, sus aux cheminots, aux grévistes, à tous ces privilégiés. Les petites graines semées par le Premier ministre allaient bientôt germer. Il en ferait un immonde bouquet qu'il déposerait sur le cénotaphe de la République, enrubanné d'un slogan explicite. Contre tout cela, une seule solution, faire front. Aujourd'hui, on dirait rassembler. Le Premier ministre, qui s'était reconverti dans la publicité, jura qu'il n'avait rien vu venir. Retrouvons nos animaux de la forêt avec cette histoire qui a pour titre « La chouette se lève au crépuscule ». La chaleur excessive provoquait l'insomnie jusque chez les animaux. Le soir, ils se réunissaient dans la fraîcheur de la forêt et la chouette, très en forme à cette heure, suggérait des dialogues auxquels ils étaient peu accoutumés. Insensible aux aléas du jour, elle avait appris que la technique des hommes modifiait en profondeur la vie diurne de ses camarades. Pour passer le temps en charge de la nuit, elle suggéra une réflexion sur le progrès technique chez les humains, à condition que personne n'évoquât les lumières qu'elle tenait en grande aversion. La bande des insomniaques se serait bien gardée d'évoquer les hommes eux-mêmes, mais à écouter les anciens, ils savaient tous que leur vie de bête n'était plus la même. Sauvages et domestiques, ils subissaient toutes les folies humaines. Un bœuf, vieillissant, évoquait le souvenir de ses aïeux. Ils sont morts à la tâche et de père en fils ne comptaient qu'histoire d'épuisement. Avec leurs tracteurs et leurs machines folles, les hommes nous ont débarrassés du joug. Pour nous, les bovins, ces progrès n'ont été qu'aubaines. Aujourd'hui, nous paissons en paix. Les équidés allaient dans le même sens, encore horrifiés d'histoires de diligence, de charrues atroces et de pénibles tractions sur les chemins de halage. Nous avons perdu nos chaînes et nous préférons les promenades, les manèges, voire les courses du jour, aux corvées d'une ère révolue. Les ovins ne partageaient pas ces idées, somme toute sensées, pas plus que les volailles. Les hommes avaient inventé pour eux des camps de concentration qui tous aboutissaient à l'extermination. La basse-cour est finie, nos pattes sont engourdies, notre pitance est farineuse, notre espèce devient stupide. La forêt retentissait d'autres échos. Ces hôtes devaient être sauvages par principe. Mais votre liberté n'est liberté que pour la chasse de l'homme, qui court et court toujours sans savoir pourquoi, objecta un labrador qui avait trompé la surveillance de ses maîtres. Mais biches, chevreuils et sangliers s'exprimèrent par la bouche du vieux cerf. C'est notre condition, elle n'a pas changé. Nous ne sommes pas des bêtes d'abattoir, et je préfère que les hommes s'en tiennent à leur chevauchée. Nous ne connaissons pas encore les instruments de mort qu'ils se réservent pour saucir entre eux. Donc, nous ne sommes pas concernés par tous ces progrès. Ils sont comme ces sortes d'oiseaux à hélice, fumants et bruyants, qui percent le ciel de nos futaies. Nous les voyons de très loin. La discussion animée par la chouette ne débouchait sur aucune conclusion. Chacun n'avait d'avis que pour sa propre espèce. Il tenait l'homme en piètre estime. La chouette voulut cependant tenir son rôle et montrer quelque sagesse au-delà des réflexions égoïstes de chacun. « Je veille sur les nuits et les rêves des hommes, et je n'y comprends rien. Ils sont de plus en plus nombreux et nous, de plus en plus rares. » Elle fut interrompue par les protestations des moutons, des vaches et des poulets. « Je sais, Mais vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des nourritures. Vous ne vivez que pour leur assiette. La vache ne connaît plus son veau, la brebis son agneau, vos œufs sont calibrés, votre chair insipide, vos membres seulement comestibles. Les hommes ne vous aiment pas. Ils ne vous dégustent même plus. Ils vous avalent, sans même plus savoir qui vous êtes. Mais vous savez, chers amis, nous ne sommes pas à plaindre. Quand la nuit, je survole leurs cités endormies. Je vois que les hommes sont aussi élevés en batterie. Je les vois se battre pour un peu de surface. Je les vois dormir sans la protection de notre belle forêt. Je les vois s'entretuer, sans même une chasse. Je les vois en troupeau ordonné. Je les vois abrutis, hagards, immobiles, prisonniers d'images maléfiques. Sachez-le, ils ne nous voient même plus. Ils ont mis un écran entre eux et nous. Ne nous plaignons pas, mes amis. Nous n'avons rien fait de toutes leurs inventions, mais nous savons pourquoi nous faisons notre nid. Nous savons pourquoi nous sautons les fossés. Nous savons même pourquoi nous sommes, pour certains d'entre nous, élevés, multipliés, exterminés par l'homme. Mieux vaut subir la bêtise des autres, qui n'entament pas notre âme, que de mourir à petit feu de son propre aveuglement. Nous n'avons pas fait le progrès. Il est logique que son sens nous échappe. Ayons pitié de ceux qui ne savent pas ce qu'il faut. Voyez cet air pollué qui contrarie mon vol. Je peux toujours prendre quelque habitude pour échapper au miasme des hommes. L'homme, lui, passe tout son temps à purifier ce qu'il corrompt et à corrompre ce qu'il purifie. Voilà le générique, l'émission est finie, oui. Alors, vous avez reconnu peut-être Didier Lallois, l'accordéoniste qu'on entendait, la Trèfle, un groupe qui s'appelle Trèfle, il y avait Swing, bon. Les musiques, vous pouvez retrouver toutes les musiques en allant voir les podcasts, lorsqu'ils sont mis à jour, sur Internet. Mais après tout ce qui vient d'être dit dans cette émission, peut-être vous n'aurez pas envie, mais ça c'est une autre question. Voilà, et les histoires, c'était bien sûr les fables intempestives d'Alain Etchegoyen. Bien, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, c'était Marco, ciao.